Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et aussi en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes avec trois comparses du projet Terre, Mer, Air, et cela avec Jocelyn Carlo, bonjour.
Bonjour.
Victor Lapelle.
Bonjour.
Et Maxime Collion.
Bonjour.
Alors, tous les trois, vous êtes ici dans ce projet Terre-Mer-Air que vous pourriez présenter d'abord. Quel est-il ?
C'est une envie. On a présenté un petit peu notre parcours rapidement. On a tous les trois fait des formations techniques d'ingénieurs en alternance dans des gros groupes, du coup, pendant 3 années. Et durant cette alternance-là, le manque de sens dans notre quotidien, en tout cas dans le travail qu'on donnait dans les entreprises, s'est fait sentir la dissonance entre nous, nos envies, le contexte climatique et l'économie avec une croissance infinie de l'autre côté ne faisait pas de sens pour nous. Et on a eu du coup le projet, l'envie, je dirais, d'aller rencontrer d'autres choses, d'apprendre des choses qu'on n'a pas forcément appris à l'école. Et c'est de là qu'est né du coup le voyage à vélo, où on est parti début octobre de Bretagne, du côté de Dinan, pas loin de Saint-Malo, et où on a parcouru les projets, des fermes paysannes, des projets politiques, des associations, des entreprises coopératives ou autres, qui aujourd'hui sont déjà dans la construction d'une société plus viable et enviable pour nous.
Et pour vous, il y avait nécessité de passer par le DIWA ?
Du coup, avec Maxime, on a fait notre école en alternance à Grenoble, et le DIWA était un des premiers lieux dans lesquels on a commencé à faire du vélo, de cyclo-voyage, pour des raisons de proximité à Grenoble, et puis aussi parce que la région est quand même magnifique. Et donc on a vraiment senti qu'il y avait un vrai terreau, on va dire, d'initiatives qui pouvaient correspondre à ce qu'on pouvait désirer du futur. Et du coup, c'était une étape qu'on savait qu'on allait rallonger par rapport à des étapes qu'on a pu passer en France un peu rapidement. Parce qu'il y a tout un réseau d'acteurs qu'on avait envie de rencontrer pour essayer de comprendre la complexité de comment est-ce qu'ils s'interconnectent, qu'est-ce qui affecte ce territoire est particulièrement riche, puis comment les acteurs interagissent entre eux, qu'est-ce qui fait que les gens se sont mis ici, et voilà, prendre le temps de rencontrer les gens vraiment en profondeur.
Avant de partir sur ce périple, vous avez certainement préparé ce voyage. Comment vous vous y êtes pris pour sélectionner les parcours que vous alliez faire ?
On a préparé le voyage, ça fait 6 mois ou voire un an avant le départ, on a commencé à y réfléchir. Et sur une carte collaborative qui est disponible sur notre site internet, on a commencé à emmagasiner des initiatives en lisant des articles dans des journaux qui nous intéressaient, sur internet globalement, et donc des gens qui se bougent, et cette carte qui n'est pas du tout exhaustive, on a mis plein de points qui sont dans toute la France, voire même dans le monde, qui nous intéressaient, et qu'on s'est dit, ces gens-là, on aimerait bien les voir. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé, et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, suivant les gens chez qui on était, ils nous dirigeaient vers d'autres personnes qu'on n'avait pas forcément renseignées sur la carte, avec le bouche-à-oreille, et du coup, maintenant, on se laisse même plus guider qu'on suit plus trop notre carte, même s'il y a certains points qu'on a vraiment envie d'aller voir, mais on se laisse guider par les gens qui nous disent « Ah bah tiens, ça, tu connais ça, il y a une super initiative pas loin, boum, on va aller voir, coopérative d'habitat, enfin, voilà, tout ce genre de choses. »
Cette constitution de carte que vous êtes en train d'opérer, en finalité, elle vous servirait à quoi ?
Aujourd'hui, elle nous sert déjà de support pour un petit peu montrer que les initiatives sont partout, qu'il n'y a pas un point centralisé en France ou dans le monde. Et ensuite, elle nous sert à nous un petit peu aussi de trace pour rappeler quel a été notre voyage, nos rencontres, et pour un petit peu pouvoir nous suivre aussi pour qu'on ait ce souvenir-là.
Oui, il y a cette idée d'éclore un peu. À notre passage, d'éclore la carte comme on découvrirait des fleurs à force de regarder un paysage. C'est vraiment l'idée de dire là où on passe, il y a des choses à voir. Et en fait, près de chez vous, il y a des choses à voir. Et du coup, aller rencontrer ces gens-là. Nous, on indique leur position quand ils sont... Ils sont tous d'accord, en fait, pour indiquer leur position. Et on laisse aussi la trace de notre passage à vélo pour indiquer aux gens voilà, qu'on peut aussi faire de la distance à vélo assez vite et que la France se traverse qu'en 8 jours à vélo, que c'est certainement un des moyens de faire du tourisme du futur, finalement. Quand on voit voilà, toutes les problématiques liées à l'avion, etc., on peut re-questionner notre rapport au tourisme, notre rapport au temps. Et c'est un peu ce à quoi sert une carte qui matérialise un peu cette idée de temps, de distance, de richesse, de territoire. Donc voilà, elle sert aussi à ça.
En étant contemporain, vous utilisez le GPS également ?
Alors ouais, on utilise le GPS. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut parler de défaut, mais on a rencontré pas mal de cyclo-voyageurs qui font tout à la carte. Et c'est vrai qu'on est un peu jaloux parce que... Ça serait intéressant de tout faire à la carte papier, quoi. Mais par souci de simplicité, on privilégie plutôt le GPS, quoi. Voilà. On utilise un GPS qui s'appelle OSM N+, et OpenStreetMap. Et c'est un logiciel qui est un GPS qui est en open source, en fait. Ça va être aux utilisateurs de ce GPS de renseigner des points, des nouveaux points, des commerces, des routes qui existent ou qui n'existent plus. Donc c'est vraiment aux utilisateurs de faire vivre le GPS. Et... en open source, et on peut faire des dons pour que ça fonctionne, quoi. Donc c'est du coup, ça nous intéresse pas mal que plutôt que passer par exemple Google Maps ou d'autres choses de ce style, ouais.
Vous pourriez peut-être nous présenter l'établissement dont vous êtes des étudiants.
Ben, de notre côté, avec Maxime, du coup, on a tous les trois fait un DUT séparé. Donc, moi, j'ai fait un DUT génie mécanique et productique à Rennes, pour commencer. Ensuite, j'ai voulu travailler dans les énergies renouvelables ces soucis de valeur. Donc, je suis allé chercher une école d'ingénieurs qui faisait de l'alternance dans le domaine de l'énergie. Et je suis tombé sur l'ENSECUB, c'est l'École nationale supérieure de l'eau, de l'énergie et de l'environnement, qui propose cette formation en alternance et aussi en parcours classique. Qui se situe à Grenoble. Voilà, c'est une chouette école. Je sais pas trop quoi raconter de plus.
Bah ouais, c'était super intéressant. Les cours étaient intéressants, ça nous a donné une bonne base technique. Et puis surtout, il y avait une espèce d'atmosphère parce que du coup, eau, énergie, environnement, ça fait arriver des gens qui se posent déjà plein de questions sur l'agence écologique. Donc il y a plein d'assos qui se bougent et ça nous a vraiment permis de nous ouvrir et de rencontrer. Ouais. Plein de gens super, quoi.
Ça catalyse des dynamiques qui sont super intéressantes. Il y a quand même plus d'une dizaine ou d'une vingtaine d'assos. Il y a la semaine du développement durable. C'est un terme qui peut être mis en question. Mais en tout cas, il y a des étudiants qui essayent de faire changer les cursus. Et donc, ça a été un bon terreau pour réfléchir à ces questions-là.
Jocelyn ?
Ouais, du coup, pour ma part, j'étais plutôt orienté vers la construction. J'ai fait du coup un DUT génie civil et j'ai poursuivi après au CESI, du coup, génie civil à Paris, du côté de Nanterre. Et on avait une ambiance un petit peu différente, on va dire, je pense, de l'eau, l'énergie, l'environnement. Je m'étais orienté vers la construction par intérêt, du coup, par curiosité, par passion pour l'habitat et les problématiques qui y sont liées. Et pour le coup, j'étais confronté pendant mon alternance, du coup, j'étais dans une filiale de Vinci, à la réalité de ce milieu, en tout cas dans sa caricature professionnelle, et également du coup avec les collègues et les camarades avec qui j'étais en école, à une ambiance qui est certainement plus attachée aux valeurs d'argent et économiques qui sont nécessaires à toute entreprise. Plus qu'à des valeurs humaines derrière.
Par rapport à vos études, est-ce que vous pensez que les formations étudiantes sont de plus en plus ciblées vers les préoccupations mondiales, c'est-à-dire l'écologie, l'environnement ?
Alors, du coup, sur la construction, pour se poursuivre, le DUT était un DUT génie civil et développement durable. Donc il avait sa petite pastille verte, un petit peu comme le paquet de Chocapic. Après, comme le paquet de Chocapic, il n'y a pas grand-chose dans le fond qui touchait. On apprend, en tout cas, par notre école, toujours à faire fonctionner l'entreprise sur la base du profit et du bénéfice comme saint objectif. Et au niveau environnemental, on apprend à faire du béton, que l'entreprise ou que notre activité soit à Marseille ou à Lille. Il y a une certaine déconnexion, je trouve, entre notre environnement et que l'on apprend encore en études supérieures dans la construction, par exemple. On reste assez traditionnel.
Et Victor ?
Ouais, nous, dans notre école, il y a quand même une vraie volonté de la part de notre administration d'essayer de nous questionner sur ces questions. Et avec toujours ce problème d'hybridation entre une école, c'est l'interface entre des étudiants et des entreprises, en tout cas dans le modèle actuel. Donc c'est toujours difficile pour, je pense, une administration d'être complètement radicale dans sa manière d'aborder des questions d'écologie. Mais il y a eu une vraie, en tout cas quand on était étudiant et depuis un certain nombre d'années, une vraie volonté de l'administration à essayer de nous questionner sur notre rapport au travail, à des questions d'écologie, etc. Notamment parce que c'est le cœur du métier aussi de faire de l'énergie renouvelable. Et voilà. Après, je pense que ça vient de plus en plus de la part des étudiants, en fait, qui sont en train de se mobiliser au niveau national et international pour faire changer les formations et finalement venir questionner c'est quoi le but de faire des études si la finalité est de faire de l'argent et détruire la planète. Donc il y a des manifestes qui sont en train de se mettre en place, le manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a fait pas mal de signatures et qui continue à essayer de changer les formations de manière assez radicale pour aussi questionner les entreprises sur leurs besoins, histoire de dire vous avez envie d'ingénieurs performants, mais est-ce que l'ingénieur performant de demain, c'est pas celui qui sera aussi conscient de ces problématiques-là, quoi. Les problématiques donc de raréfaction des ressources, de pollution, de systèmes économiques non viables. Et donc, ça pousse de plus en plus les formations à devenir hybrides. C'est-à-dire, je pense que l'ingénieur de demain, ce ne sera plus un ingénieur que technique, parce que, en fait, les problématiques sont aussi sociales, sociétales, économiques et politiques. Et du coup, il y a de plus en plus de doubles diplômes avec Sciences Po. Et il y a vraiment des étudiants qui poussent derrière leurs administrations à changer, qui sont plus ou moins réfractaires à ça. Mais en tout cas, je pense que pour l'instant, ça vient de là. Et en espérant que ça aille plus loin, quoi.
Maxime ?
Moi, du coup, un peu dans le même contexte que Victor, parce qu'on est dans la même école, mais je pense que nous, on a de la chance, par rapport à d'autres certaines écoles d'ingé de Grenoble, on a de la chance d'avoir une administration qui est plutôt à notre écoute. Et du coup, on peut faire changer les choses, même si c'est long, parce que forcément, changer des cours, ça ne se fait pas du jour au lendemain, même de plusieurs années sur d'autres. Donc nous, on bossait pour les années d'après, quoi, les années futures. Mais en tout cas, on a la possibilité de le faire dans notre école. Après, pour généraliser, j'en sais rien, mais sur notre école, ouais, c'était chouette en tout cas de pouvoir le faire.
Donc vous êtes dans le DIWA depuis quelques jours, depuis quand exactement ?
Une grosse semaine.
Une grosse semaine. Ouais. Et donc, vous êtes allé visiter un petit peu le territoire. Vous avez rencontré les personnes que vous souhaitiez.
Ouais. Alors après, est-ce qu'on avait des personnes en particulier de cibler en arrivant ? Pas forcément. Pour le coup, on a plutôt eu la facilité de se faire guider en arrivant ici, en faisant des personnes assez très ouvertes, qui nous ont orienté de fil en aiguille vers d'autres dynamiques. On est allé du coup voir pas très loin à Saillant ce qu'il se passait, jusqu'à Cray, et puis revenu du coup sur Die, parler de la Carline ou des initiatives politiques ou d'habitat collectif dans les environs. Et on a eu un voyage assez naturel, on va dire, dans le DIWA, parce qu'il y a des rencontres naturelles.
Même si on cherche là pour l'instant à aller aussi... on se laisse guider. En même temps, on demande souvent on essaie de dormir un peu chez des gens tout le temps un peu différents, histoire de brasser un peu aussi tous les milieux sociaux qu'on peut croiser dans la vallée. Et du coup, de prendre des contacts de différentes personnes qui ont différents mouvements. Donc on a aussi rencontré des associations qui s'occupent d'accueillir des exilés et de leur proposer une vie digne. De participer à ce que chacun puisse mener une vie digne, etc. Donc là, pour la semaine prochaine, on aimerait bien aller voir les représentants de la Biovallée, parce que ça nous semble être vraiment un lieu qui a l'air de beaucoup réseauter. Pareil avec DIWAT ou des choses qui sont plus liées autour de l'énergie. Enfin voilà, on est aussi acteurs d'aller chercher les contacts qui nous plaisent. Et pour l'instant, faut dire que les gens sont très ouverts à expliquer ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est quand même c'est une vraie chance et c'est très riche.
Vous avez cité la Carline ou l'habitat collectif. Est-ce que vous avez découvert une originalité sur le DIWA ?
pour nous, notamment la Carline, justement, nous faisait penser à un lieu qu'on avait rencontré en Bretagne, du côté de Brocéliande, à à Hogan, pardon, qui était le champ commun, une SIC également, du coup, avec un village de 1600 habitants et 13 équivalents temps plein à l'intérieur, qui avait également une épicerie, avec en plus quelques diversités d'activités à côté, avec une microbrasserie, le bar au-dessus et une salle de concert, bref, auberge et autres, qui, de par sa structure, nous faisait pas mal penser, en tout cas, à ce qui avait été fait à la Carline, avec la surprise, quand nous sommes allés rencontrer du coup Florent là-bas, que l'histoire de la Carline puise beaucoup plus dans justement la dynamique de cette vallée. Et aujourd'hui, on s'était pas rendu compte, en tout cas en apparence, en rentrant dans l'épicerie, de tout ce que ça a été, et les 30 années qui ont permis de faire émerger ce lieu, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui, et de qu'est-ce que c'est aujourd'hui que de faire fonctionner une société coopérative d'intérêt collectif qui va avoir plus de 2 millions de chiffres d'affaires. Et donc c'est parmi les choses qui continuent d'apporter de la richesse, en tout cas dans les différentes expériences et les différentes manières que l'on a ensuite de voir un même type d'initiative.
Et durant le parcours, depuis votre départ de Bretagne, qu'est-ce que vous avez découvert aussi qui était très intéressant à vos yeux ?
Je dirais des associations, par exemple, je citerai le Lotec Lab ou l'Atelier Paysan, qui vont remettre, le but c'est de remettre en main la construction des outils paysans, par exemple pour moissonner, pour planter. Donc le but, c'est que chaque paysan reprenne en main les outils de construction pour mieux se l'approprier, pour pouvoir le réparer le cas échéant et pas être dépendant de machines qui coûtent très cher et qui sont irréparables, en tout cas par leurs propres moyens et s'endetter. Donc ça, ouais, moi, je trouve que c'est une très bonne initiative, quoi.
Je sais pas si on a le droit d'être politiquement incorrect sur cette radio. Mais si, c'est bon. Ouais, moi, le grand choc pour moi personnellement, ça a été de me rendre compte de réalités qu'on pouvait entendre par entendre ou lire sur des articles vis-à-vis de réalités qui pourraient ressortir, enfin de responsabilités qui pourraient être indues à l'État. Je pense notamment aux exilés, je pense à ce qu'a pu faire l'État sur des zones, enfin l'État, c'est un grand concept, mais au rôle que joue l'État aujourd'hui dans la redémocratisation de nos moyens de production, sur la façon de questionner nos besoins et d'accompagner cette transition qui est vouée pour l'instant à continuer à faire du chiffre. Et ça a été un choc assez dur de me rendre compte que le pouvoir appartenait vraiment à ceux qui étaient en train de mettre en place leurs moyens de subsistance maintenant, plus que d'attendre que l'État vienne éventuellement nous aider, ça a été un choc pour moi, ouais, de me rendre compte que l'État était finalement pas forcément prêt à aider le bien commun, et que du coup cette notion de bien commun était à nous réapproprier. Et ça a été, ouais, je pense, une grande découverte. Je l'ai ressenti dans mes tripes plus que dans mon mental quand j'étais parti en vélo, quoi.
La Confédération paysanne, vous la croisez justement dans ces moments-là?
Ouais.
On a croisé, par chance, ou j'en sais rien, on était à Cray, je sais plus, dans la semaine.
Samedi.
Et puis on a croisé le secrétaire général de la Confédération paysanne, ouais. Et du coup, c'était intéressant, on a pas mal discuté avec lui de cette organisation, de qu'est-ce qu'ils font. Et donc, ouais, c'était. Mais sinon, je dirais que c'est un peu la seule fois qu'on l'a.
Alors, non, on l'a croisé à Tournu aussi.
Ah oui.
On l'a croisé à Tournu, on l'a croisé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ouais, c'est. On l'a croisé notamment, enfin surtout en tant que réseau de presque de résistance face à des projets parfois planéticides ou enfin qui défendent un autre modèle de société auquel les gens qu'on croise qui sont dans une forme de dynamique de bien commun ne sont pas prêts à prendre. Si on résume ça comme ça.
Et donc, votre parcours de ces données, vous instruisez votre site internet, viable et enviable. Alors, le viable et l'enviable, qu'est-ce que vous voulez définir par ces deux mots ?
Oh, grande question.
Grande question, oui. Je dirais que viable et enviable, bon, déjà, pour le jeu de mots, c'était cool de prendre ces deux mots. Et après, sinon, viable et enviable, parce que viable écologiquement, quoi, pour l'avenir, pour avoir une planète qui soit vivable. Donc viable et en viable parce que viable, par exemple, vivre dans une caverne, c'est sûrement viable d'un point de vue écologique et pour la planète, mais par contre, c'est pas du tout enviable. Il y a personne qui en a envie. Donc c'est pour ça que on pense qu'il faut arriver à lier les deux pour avancer, pour continuer. Même et perdre un peu de confort, mais c'est pas forcément, ça peut être enviable quoi aussi.
Du coup, viable écologiquement et socialement quoi. C'est ça aussi, c'est que et peut-être pour tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est une question qui est voilà, viable pour qui, pour on espère pour les gens, enfin pour tout le monde, et pas pour une espèce de d'élite dorée qui pourrait se permettre de se bunkeriser aujourd'hui. Et puis en viable aussi pour le plus grand monde ou ceux qui ont envie de vivre dans des conditions qui soient décentes.
Vous savez, il existe Terre de Liens, je suppose que vous connaissez, ou d'autres organisations comme l'ADR, qui permettent justement de récupérer ces terres agricoles émanant d'agriculteurs qui prennent leur retraite. Et ça, c'est un mouvement qui va s'amplifier dans les années à venir. Est-ce que vous êtes vigilant aussi sur cette conversion ou maintien de ces terres ?
On les a suivis, enfin en tout cas on les a rencontrés d'abord à Trévéro, dans une ferme pareil, fraîchement montée, qui voulait se lancer dans une production avec de la vente directe pour l'alimentation humaine, et donc avec tout un écosystème, entre à la fois de la production de poules en pâturage, avec à côté des porcs, des vaches et des céréales, qui permettaient à la fin d'avoir uniquement des produits destinés à l'alimentation humaine et pas être dans la boucle ouverte comme on a aujourd'hui, avec bon, on met tout dans un silo et puis ça part alimenter d'autres productions à côté. Et là, du coup, la démarche de Terre de Liens, par exemple, permet au niveau de la réflexion sur le bien commun de se repositionner sur qu'est-ce que la propriété, quel sens elle a aujourd'hui et comment on peut collectivement derrière avoir des actions qui permettent de donner un objectif politique, en tout cas une vision de société plus loin que uniquement acheter du vrac ou du bio. Qui redonne un petit peu plus de sens social aussi à l'agriculture et un petit peu plus de reconnaissance à son activité.
Je vais demander à chacun de vous, l'un après l'autre, pour vous, vous voyez l'avenir comment, au niveau agricole
Je dirais, au niveau agricole, on sait qu'il va y avoir un grand remplacement quoi, en quelque sorte, parce qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui vont partir à la retraite et on va avoir besoin de plus d'agriculteurs quoi. Par exemple les fermes avec beaucoup énormément d'hectares, ça, on sait que c'est pas viable pour le futur, donc il faudra plus de petites fermes, de petits maraîchers qui pour nourrir la population. Et après comment on voit l'avenir d'un niveau agricole? Quand on regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est le climat, les plus 2 degrés, plus 3 degrés, je dirais qu'on voit que qu'il faut se bouger, qu'il faut faire quelque chose, quoi. Il y a une phase de deuil qui est à passer, de prendre en compte toutes ces conséquences que ce qu'on est en train de faire, du capitalisme, etc. Et du coup, une fois passée cette phase de deuil, il faut essayer de se relever pour partir de l'avant et pour tenter de voir qu'il y a des gens qui se bougent déjà. C'est ce qu'on essaye de voir avec ce tour en vélo, parce que ça nous fait aussi du bien quand même de rencontrer toutes ces personnes et de voir qu'il y a plein de gens qui se bougent et que nous, on va se bouger pour que ça se passe en tout cas du mieux possible, quoi. Et moi, je vois ça collectif, beaucoup plus collectif, quoi, vraiment ensemble. Plus collectif qu'actuellement, on est tous très individuels et avec plus de liens sociaux, on a plus ce besoin de rencontrer les gens, de travailler ensemble, de faire des réseaux assez locaux. D'ailleurs, dans la vallée, c'est assez intéressant. Par exemple, sur Saillant, il y a des réseaux qui sont très maillés les uns aux autres et ils ont été capables l'année dernière d'organiser un festival de musique. Ils avaient un de leurs copains qui allait en garde à vue et ils ont mobilisé ils ont créé un festival de musique en 3 jours avec 600 personnes quoi, et ça c'est génial. Ils ont mobilisé tout leur réseau d'un coup et les gens se sont mobilisés, et ouais, je crois en ça dans le collectif moi.
Victor,
ouais, le futur d'un point de vue agricole, en fait on se rend compte que le système actuel est construit sur une vision de société où c'est normal de faire, échanger des patates qui se croisent sur la route parce que le nord, les patates du nord doivent aller au sud et celles du sud doivent aller au nord. je pense qu'il y a, il y a pas mal de, d'enjeux politiques derrière ça, notamment autour du, de la politique agricole commune, par exemple, qui vient favoriser le nombre d'hectares plus que le nombre d'employés, qui vient favoriser une vision de l'agriculture sur l'endettement, enfin voilà. Et l'agriculture, on est en train de se rendre compte aussi qu'il y a... je pense que je rejoins la vision de Maxime, donc je vais compléter parce que pour que là, ce soit intéressant, il y a, on se rend compte qu'il y a des problématiques qui sont liées au fait que donc dans les nouveaux arrivants en terre rurale pour notamment faire du maraîchage, etc., il y a des visions qui se confrontent entre une forme d'ancien monde qui est basée sur cette volonté de faire de l'agriculture comme on l'a fait en sortie de la guerre pour nourrir le monde, comme on disait, et des visions théoriques qui fonctionnent aussi, mais en permaculture, etc., qui sont parfois un peu idéalisées, je pense. Et puis, cette confrontation avec ces deux types de populations, si on peut dire, pose des questions notamment autour du loup, autour du pâturage, autour de qu'est-ce qu'on va faire et quelle viande on mange. Entre le végétarisme et manger de la viande locale, est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il faut être aussi radical que de pas du tout manger ? Enfin, voilà. Donc moi, je vois l'avenir de l'agriculture comme... définitivement une transition. Je pense qu'on va avoir un gros problème autour de la terre et de l'accession à la terre parce qu'il y a visiblement quand même des fonds étrangers qui commencent à venir acheter des terres en France et qu'ils ne font pas ça pour rien, quoi. Et que Terre de Liens est une solution notamment pour éviter la spéculation foncière et tout, mais que ça va peut-être privilégier une certaine casse de la population à venir s'intégrer en agriculture. Et ça va être aussi un problème en termes d'intégration sociale. Et puis bah après, je pense que voilà, il faut se demander qu'est-ce qu'on mange et puis d'où est-ce qu'on veut que ça vienne et comment est-ce qu'on veut que ce soit produit et puis que sur enfin voilà qu'il y a pour moi il y a de quoi faire en termes de ressources. Il y aura beaucoup de challenges de défis par rapport aux changements climatiques profonds qui vont forcément modifier les paysages et les climats et la météo. Et voilà, et puis ça va être chouette, quoi. Comme disait Maxime, en fait, c'est un énorme défi qu'il faut essayer de relever. Une fois qu'on a fait le deuil du confort qu'on a aujourd'hui, et ben, il n'y a plus qu'à, quoi. C'est un peu ça.
Merci, Jocelyn,
ouais,
sur cette vision.
Du coup, je partage complètement la vie de Maxime et Victor. Pour, on va dire pour le futur, en tout cas, ce que j'y vois pour le moment, en tout cas, c'est un certain nuage aussi derrière, qui va être celui justement des transformations climatiques qui vont avoir lieu, du coup, qui vont s'opérer après que l'on ait dépassé du coup le 1, le 2e degré, et assez rapidement le 3e degré. La culture va peut-être pas être aussi facile que ce qu'elle a pu l'être par les habitudes de ses travaux, parce qu'on a su trouver des solutions pour s'adapter à nos territoires, et qu'il va falloir continuer de s'adapter rapidement à d'autres transformations, et donc ça va certainement poser aussi quelques questions au niveau des rendements qu'on avait avant, qu'on a aujourd'hui pour garder notre autonomie, et être capable du coup, avec cette autonomie, de s'organiser localement, en tout cas dans différentes communautés. Et la question du coup de la viabilité du monde dans certaines régions, et par suite du coup de l'émigration qui risque de s'en suivre, enfin qui s'en suivra si les personnes tiennent à se battre pour leur vie et leurs enfants. Et à ce moment-là, quand on regarde un petit peu les scénarios pour les 2050 et après, on va être sur quasiment un tiers de la population mondiale qui va commencer à migrer. Si on pourra complètement faire partie de cette population qui migre, nous aussi. Ce qui veut dire qu'il faudrait anticiper peut-être aussi, en tout cas je vois ça dans ce nuage-là un petit peu comme objectif à terme, d'être capable de produire pour soi, mais aussi d'être capable de produire pour ces personnes-là qui demain ne pourront plus le faire chez eux.
Je crois que vous abordez donc les sciences politiques lors de votre cursus. Est-ce que la FNSEA, pour vous, vit... vers une disparition du fait que des agriculteurs vont partir à la retraite. Est-ce que vous pensez que c'est une utopie et que la relève actuelle, c'est celle justement du retour à la paysannerie? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une alternative à long terme?
Une alternative à la FNSEA? Oui. Ben, je pense que c'est des mondes qui sont en train de se construire en polarité, malheureusement. et que du coup ça va devenir une confrontation de plus en plus forte. On est arrivé dans des territoires où en fait tout le monde vote FNSEA parce que finalement si toi en tant qu'employé d'agriculture tu votes pas ça, t'as des intérêts personnels qui sont pas représentés quoi. Je me suis pas beaucoup renseigné sur la question de la FNSEA en fait. Donc je veux pas trop dire de bêtises là-dessus. Voilà, je pense que des alternatives sont à construire politiquement sur une question fondamentale qui est quels sont nos besoins et à quoi on répond. Et c'est tout. Après, j'ai pas étudié vraiment le débat FNSEA Confédération Paysanne. Mais en effet, je pense qu'il y a, sans prendre de parti, c'est pas une question de partisanisme, mais je pense que la paysannerie répond à un besoin de savoir... Qu'est-ce qu'on mange et pourquoi et par qui. Et a priori, de ce qu'on voit à travers notre voyage à vélo, ça semble être quelque chose qui semble cohérent. Notamment quand on lit la charte de l'agriculture paysanne, ouais, ça donne envie de manger des choses qui sont produites dans ces conditions-là, quoi.
Globalement, ce voyage vous laisse avec beaucoup d'espérance.
Avec quelle espérance est violente.
Ouais, plutôt en tout cas des rencontres qui nous ont permis de nous aussi sortir du côté malaisant dans lequel le quotidien, qui n'était pas forcément cohérent avec nos idées, avant de partir à vélo, nous mettait. Et donc toutes ces personnes qui déjà aujourd'hui, alors qu'on a une société qui n'encourage en rien, en tout cas ne pousse en rien à tester ce genre d'initiative, du coup, société qui a quand même créé des personnes qui cherchent à eux raisonner avec les personnes qui sont autour d'elles, vivre sans être aux dépens d'autres du coup et sans avoir besoin d'exploiter d'autres personnes à côté. Et juste cette envie déjà des personnes et cette capacité que l'on a à s'organiser pour aller à l'encontre d'une certaine force aujourd'hui, en tout cas, tel que le système s'est implanté et avec la pression qu'il a. Nous laisse croire que ça... En tout cas, nous, on sait qu'on va pouvoir mettre notre énergie là-dedans et qu'il y a quelque chose de possible complètement. Ouais.
Projet Terre-Mer-Air, cela implique aussi qu'il y a d'autres explorations vis-à-vis de la mer ou de l'air.
La suite dans le prochain épisode. Bah ouais, l'idée, c'était de dire si on voyage en Europe... Ou dans le monde, on continue cette idée d'être décarboné. Et donc, on prendra le bateau. Et Joe, il est skipper. Donc, y a moyen de le faire avec nos propres connaissances de groupe pour l'instant. Et ouais, au début, on voulait faire... c'est ça, quoi. Puis c'était un joli jeu de mots pour dire que voilà, c'était un peu de témérité de dire aussi de suivre, enfin, d'essayer d'insuffler aussi cette énergie autour de nous pour dire soyons téméraires ensemble. Et affrontons, faisons face, quoi. C'est vraiment ça, faire face.
Vous êtes à Die et vous avez un rendez-vous avec les habitants le 14, je crois, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Et ça se passera où ?
Alors, on va faire une fresque du climat à la salle communautaire du centre social, là, le SDD. Donc la fresque du climat, c'est un... En fait, quand on a commencé le tour en vélo, on s'est arrêté dans un lycée, donc qui se trouve être l'ancien lycée de Jocelyn et Victor. Et on a parlé de notre tour en vélo, pourquoi on le faisait, quel parcours scolaire on avait fait, parce que ça les intéressait pas mal. Et puis on a petit à petit décalé sur parler du changement climatique, qu'est-ce que c'est. Donc on a commencé à présenter quelques graphes sur des sites internet un peu en direct, quoi. Et puis on s'est dit, il faut trouver une manière un peu plus ludique de parler de tout ça, parce que là, devant un tableau et tout, ils sont intéressés, mais par contre, c'est pas... Ils sont pas assez acteurs de ça, quoi. Du coup, à la fin, ils en ressortent, ils ont compris certaines notions, mais pas forcément. Ils n'ont pas forcément de vue globale. Donc, du coup, on s'est intéressé à la fresque du climat, qui est une association qui a tiré un jeu de 42 cartes qui sont toutes tirées du dernier rapport du GIEC. Et le but, c'est de lier les causes, effets, conséquences du changement climatique. Donc en partant de l'activité humaine et en finissant par les conséquences. Et donc par groupe de 5-6 personnes sur une table, on met les cartes dans l'ordre en mettant des flèches. Et le but, c'est que chaque personne s'approprie la fresque s'approprie ce qu'est-ce que c'est le changement climatique. On en discute autour de la table, c'est ultra participatif. Et donc, on s'est dit qu'on aimerait bien en faire en vélo. Donc, du coup, on en organise une demain, donc samedi 14 mars après-midi, à l'ESCDD. Donc, ça va être une première pour nous, puisqu'on s'est formé à Lyon au mois de janvier pour être animateur de la Fraise du Climat. Et donc, ça va être une première pour nous, et on espère que les gens seront au rendez-vous. Voilà.
C'est à partir de quelle heure?
15h.
De 15h à 18h. Voilà.
On peut présenter le site pour les auditeurs. Donc, viable-du-6 et et-du-6-enviable.fr. Et là, on peut y trouver tout votre travail.
Ouais,
d'exploration.
Le travail, c'est un petit peu un grand mot, on va dire, qu'on n'a pas d'expertise pour apporter un discours descendant aux gens. Par contre, nous, c'est des questions qui nous ont traversées tout au fil de nos rencontres. Et depuis la fin des études, du coup, avec la CAS qui nous avait quand même bien marqué le crâne, jusqu'à aujourd'hui, l'ouverture qui nous a permis nos rencontres. Et donc, c'est toutes les questions que l'on a eues, les partages d'expérience des personnes que l'on a rencontrées. Et les parcours de vie aussi qui ont pu être partagés. Du coup, on a autant d'articles que d'entretiens audio.
Et surtout, il y a la carte. Il y a la carte collaborative qui sera alimentée par tout ce que nous donnent les gens à aller voir, qu'on alimente au fur et à mesure. Il y a le budget du projet, il y a un peu notre démarche qui est en première page une forme de charte de dire pourquoi est-ce qu'on part, parce qu'il a fallu expliquer aussi à nos proches pourquoi est-ce qu'on refuse un salaire d'ingénieur en sortie d'école pour faire du vélo. Parce que des fois, ça c'est un peu réduit à faire du vélo, alors que c'est pas que ça. Et puis voilà, au fur et à mesure, il y a des articles qu'on essaie de construire de manière la plus, on va dire, professionnelle possible, malgré notre non-formation dans ce domaine. Et puis voilà, pour essayer de partager de manière humble nos questions, les choses qui bougent, donner des exemples, enfin des lumières, un peu des phares dans des trucs, se dire, il y a des choses qui se passent.
Jocelyn Carlo, Victor Lapelle et Maxime Collion, je vous remercie tous les trois de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous parler du projet Terre-Mer-Air. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci
à toi.
Bonne journée.